Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est avec un immense plaisir que je vous parle d'une marque que j'affectionne tout particulièrement, Mama Hangs. Mama Hangs a les produits qu'il te faut en tant que maman allaitante. La brassière et le soutien-gorge d'allaitement absorbant. Ils sont conçus dans un tissu bien spécifique pour l'occasion, aka le micromodal, qui absorbe, sèche vite et te permettra d'éviter toute odeur, et ce, en restant au sec. Tout ça veut dire que si, comme moi, tu as des fuites de lait d'un côté quand le bébé tète de l'autre, adieu coussinets d'allaitement qui se font la malle et bonjour brassière ou soutien-gorge qui tiendra toute la journée. Et ce n'est pas fini. Le petit nouveau de la collection, c'est le body, qui a les mêmes talents absorbants en s'ouvrant à l'avant avec des aimants trop pratiques. Ici, on ne se passera plus de ces produits top quali, beaux et confortables. Alors merci Mama Hangs de soutenir le podcast depuis si longtemps. Et si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur leur site mama-hangs.com et avec le code MILCHECKER, tu bénéficieras d'une jolie et rare remise de 15% sur ta commande. Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui est dédié à l'allaitement. Milkshaker car en 2020, j'ai décidé qu'ici, on allait agiter les idées reçues qui font la vie dure aux mamans allaitantes. Je commence par me présenter, je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation. J'accompagne entre autres quotidiennement les mères dans leur allaitement en libérant avec mes petites mains les tensions de leur bébé qui ne têteraient pas tout à fait correctement. Je suis également formatrice en ostéopathie pédiatrique et sur le sujet spécifique des troubles de la succion des nourrissons, et podcasteuse à mes heures pas si perdues. Enfin, je suis surtout la maman de deux enfants, l'un allaité une année et l'autre est en train de téter au moment où j'enregistre cette intro. Ici, tu écouteras des témoignages autour de l'allaitement, des vécus tous différents mais essentiels à recueillir pour apprendre de l'expérience des autres, pour se repérer, s'identifier parfois, déculpabiliser aussi mais surtout assurer la transmission nécessaire pour normaliser et même banaliser ce qui devrait l'être, nourrir son bébé, bambin, si on le souhaite, comme on le souhaite, et le temps que la dyade, comme on l'appelle, mère-enfant, le désire. Et ce n'est pas tout, car si l'allaitement était facile, ça se saurait. Le manque de transmission d'informations n'épargnant personne, il me semblait essentiel que ce podcast s'adresse aussi aux professionnels entourant les mères durant cette période. C'est l'intérêt des épisodes experts que vous pourrez écouter régulièrement, que vous soyez parent ou soignant, pour vous orienter face aux difficultés rencontrées. On y traite toutes sortes de problématiques liées de près ou de loin à l'allaitement, et plus encore. Un seul objectif ici, informer le plus largement possible. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Dès qu'un épisode vous a plu, aidez-moi en le faisant voyager pour qu'il arrive dans chaque oreille qui peut en bénéficier. Via le bouche à oreille, sur les réseaux, ou encore en laissant des étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute, vous n'imaginez pas à quel point c'est précieux, alors merci d'avance si vous prenez une minute pour faire vivre ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Cette semaine, c'est Anaïs qui arrive dans Milkshaker. Anaïs est une patiente, une maman de deux enfants, qui a découvert qu'elle manquait réellement de lait, en fait, à l'écoute des épisodes de Milkshaker qu'on avait enregistrés avec Aubrey Richardson. Et elle était revenue vers moi à ce sujet-là. Je l'ai revue récemment, et là, à l'aube de vous rediffuser ces épisodes que je trouve essentiels à entendre, parce que, voilà, on essaye au maximum de faire comprendre que les manques de lait sont rares, etc. Malgré tout, ils existent quand même. Et quand on est dans ce cas-là, c'est quand même intéressant de le savoir parce que ça évite de culpabiliser et de se dire que c'est pas normal, qu'on n'a pas assez de lait, etc. Parce que malgré tout, il y en a qui n'en ont pas assez et on en a toutes d'une certaine proportion. Et dans celles qui manquent de lait, il y en a qui manquent énormément de lait, comme c'était le cas d'Aubrey dans son épisode qui explique qu'elle allaitait à 10%. Elle donnait du lait maternel à 10% des besoins de son bébé. Et là, vous verrez qu'Anaïs, elle, considère qu'elle est plutôt à 80%. Donc voilà, dans le panel des manques de lait, vous aurez différents témoignages. Vous avez eu Victoire la semaine dernière. Vous avez donc Anaïs cette semaine. Je vous laisse avec elle. Elle vous a raconté le maximum de détails sur son histoire. Et voilà, ça va être comme d'habitude super instructif. Et si vous aimez ce modèle d'épisode, de petits témoignages, que vous avez vous aussi une histoire dans ce style-là, que ce soit sur le manque de lait ou autre chose, un épisode de vie que vous aimeriez raconter autour de l'allaitement, n'hésitez pas à venir me contacter, à me dire si ce format vous plaît et si vous avez besoin ou envie de raconter quelque chose et que je vois si ça s'intègre dans la programmation. Je vous dis à tous à très vite et je vous laisse avec Anaïs.
Bonjour Charlotte, donc comme promis, je viens aujourd'hui apporter mon témoignage sur le manque de lait. Donc je suis Anaïs, j'ai 36 ans et je suis la maman de deux petits garçons de 4 ans et demi et 2 ans et demi. Mon grand a tété presque 4 ans et mon petit tète toujours aujourd'hui. La mise en place de l'allaitement de mon premier a été assez compliquée. Il faut dire que je démarrais avec un terrain qui n'était pas forcément très favorable. Car j'ai une hypoplasie mammaire, donc ce diagnostic n'a jamais réellement été posé, mais c'est à l'écoute de l'épisode d'Aubray, dans lequel je me suis parfaitement reconnue, que j'ai commencé à utiliser ce terme pour décrire ce que j'avais. Pour être plus factuel, à l'adolescence, malgré la présence de glandes mammaires des deux côtés, je n'ai qu'un seul sein qui s'est développé. J'ai donc subi à l'âge de 16 puis 18 ans la pose d'implant mammaire pour venir corriger la symétrie. Et donc hypoplasie mammaire plus implant mammaire, la réussite de l'allaitement n'était pas forcément garantie pour moi. Pour ces raisons, mais pas que, parce que je savais aussi que l'allaitement n'était pas forcément un long fleuve tranquille, je me suis beaucoup renseignée sur l'allaitement avant la naissance de mon fils. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, au moins d'essayer. Je me suis jamais réellement mis d'objectif de temps, mais voilà, j'avais vraiment à cœur d'essayer et d'être informée pour pouvoir mettre toutes les chances de réussite de mon côté. Donc pour ça, j'ai lu le manuel très illustré de l'allaitement que j'ai trouvé très intéressant parce que c'est un bon recueil d'informations tout en étant facile à lire et assez ludique. Je me suis aussi beaucoup inspirée de comptes Insta portant des témoignages d'allaitement et notamment autour de l'allaitement long. Je pense au compte par exemple de Ziganette qui à l'époque de ses allaitements partageait beaucoup autour de cette thématique. Et surtout j'avais pris le contact d'une consultante en lactation pour être prête dès la naissance à prendre conseil. Malheureusement Milkshaker n'existait pas encore à cette époque, sinon bien sûr j'aurais également écouté les épisodes de Milkshaker. Donc mon fils est né en décembre 2019 et malgré des débuts plutôt positifs avec une reprise de poids dans les 3 jours post-naissance, la prise de poids par la suite n'était pas tout à fait satisfaisante. J'ai donc fait appel à une consultante en lactation quand il avait, je crois, une semaine ou 10 jours et on lui a trouvé un frein de langue. Alors, c'est pas ça qui forcément expliquait tout, mais qui pouvait être une partie de l'explication du manque de lait et donc de la prise de poids trop lente. Et donc, à la suite de cette consultation, ma consultante m'a proposé un plan d'action qui était le suivant. Donc, elle m'a fait d'abord changer de tire-lait. À l'époque, j'avais le Spectra, elle m'a fait passer sur le Medela Symphony. Elle m'a également proposé la prise de fenugrec. Elle m'a conseillé des tétés toutes les 3 heures minimum, quitte à le réveiller la nuit. Elle m'a aussi suggéré un complément systématique de 30 à 40 ml de lait maternel si j'en avais assez tiré ou bien artificiel après chaque tétée, plus de tirer mon lait après chaque tétée, 15 minutes maximum, donc soit juste après la tétée, soit dans l'heure qui suivait la tétée. Elle m'a aussi conseillé la compression pendant la tétée. Des exercices pré- et post-frénotomie, donc on ne savait pas à ce moment-là si on allait couper le frein, mais dans tous les cas, c'était des exercices qui étaient faits à faire, que son frein soit coupé ou pas. Des séances d'ostéo, ce qui m'a valu ma première rencontre avec Charlotte. Et enfin, mais pas en première intention, mais assez rapidement, on a aussi ajouté le power pumping pour essayer de booster la lactation. Alors autant les compléments ont rapidement fait le job pour la reprise de poids, autant côté lactation c'était pas ça. Je tirais que très peu de lait, donc au bout de quelques semaines, j'ai quand même tenu quelques semaines à tirer après chaque tétée, etc. J'ai fait le choix d'arrêter parce que les tirages étaient plus énergivores que productifs, et ça malgré une frénotomie assez 1 mois. Donc mon grand a finalement été complémenté assez rapidement, mais jamais au détriment d'une tétée, puisque le complément était toujours donnée après une tétée. Et au fil des semaines, on a réussi à trouver un rythme de croisière avec un ratio d'environ 80% de lait maternel, 20% de lait artificiel, ce qui était pour moi tout à fait satisfaisant. Pour moi, ça n'a jamais été un problème de lui donner du lait artificiel tant que ça ne mettait pas en péril mon allaitement. Je tiens à préciser que les premières semaines, moi, ce n'était clairement pas évident. Je ne savais pas forcément trop où j'allais. On ne savait pas forcément trop où on allait parce que j'ai été très épaulée dans tout ce parcours par le papa. On faisait un peu au jour le jour sans savoir combien de temps ça durerait, mais en tout cas en essayant de trouver toujours des solutions à chaque obstacle rencontré. En tout cas, moi, j'avais bien en tête que je préférais un allaitement mixte long que exclusif et courté. Autre particularité dans mon parcours, j'ai assez rapidement allaité sur un seul sein. À droite, j'avais vraiment très peu de lait. Alors, on produit tout plus d'un côté que de l'autre, mais moi, vraiment, côté droit, j'avais vraiment très peu de lait. Et d'ailleurs, bébé s'est assez vite lassé. Je le faisais toujours téter dessus, toujours en premier, mais clairement, c'est à gauche qu'il prenait vraiment. Et au bout de quelques mois, il s'est même complètement désintéressé du sein droit, que moi j'ai continué à stimuler. En fait, j'avais repris le travail, je tirais mon lait, donc je profitais de tirer des deux côtés pour pouvoir maintenir la lactation de ce côté-là. Mais après, durant les 2 mois d'été, j'ai eu bébé H24 avec moi. Donc clairement, j'ai arrêté de tirer. Et donc mon sein droit n'a pas du tout été stimulé de l'été. Et quand j'ai repris les tirages en septembre, clairement, j'avais vraiment très très peu de lait, voire la lactation s'était arrêtée du côté droit. Et à ce moment-là, j'ai pris des décisions, après avoir pris conseil aussi auprès de ma consultante en lactation, de n'allaiter officiellement que sur un sein. Et tout ça en gardant le même ratio, parce que bah, finalement, toute la production de lait, je l'avais quasiment du côté gauche. Ensuite, ce qui est venu casser notre rythme de croisière, c'est que je suis tombée enceinte. Mon grand avait un tout petit peu plus d'un an. J'ai alors rapidement observé une baisse de lactation. J'ai compensé, bien sûr, en augmentant ses compléments, l'objectif étant de garantir ses apports en lait dont il avait encore énormément besoin à ce moment-là. Malgré tout, on a réussi à conserver l'allaitement, et ça durant toute la grossesse. Donc mon sein était plus sensible, mais c'était supportable. La seule chose que j'ai volontairement induite, c'est le sevrage nocturne pour préparer l'arrivée du petit frère à un mois de la naissance. Donc à la naissance du petit frère, le grand était toujours, et pour moi je pense que ça a clairement été une aide à la mise en place de cette nouvelle lactation. Il a fallu cependant mettre des règles de priorité pour que le bébé puisse recevoir tout le lait dont il avait besoin. J'ai tenté de relancer ma lactation à droite, mais j'ai finalement rapidement abandonné car c'était clairement pas concluant et en plus inconfortable. Donc durant un mois, bébé a eu une courbe parfaite. Puis au-delà, ça a commencé à infléchir. J'avais déjà vu mon binôme consultante en lactation et ostéo qui avait observé des freins de joue, un frein de lèvres, mais pas de frein de langue. Donc rien de très...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte-bébé Carry and Pack. Je suis une fervente adepte des écharpes de portage, mais l'ostéopathe que je suis sait que leur mise en place peut parfois vous freiner, vous ou votre moitié. Mais aussi ô combien le portage peut être indispensable pour certains bébés. Chez Mama Hanks, pas de compromis. Le porte-bébé Carry and Pack est en fait un vêtement confortable que tu enfiles comme un t-shirt et dans lequel ton bébé va pouvoir venir se lever, tout en respectant sa position physiologique, l'enroulement de sa colonne, l'écartement de ses hanches, ainsi que le dégagement de ses voies respiratoires, grâce à des systèmes de serrage des pans de tissu. Ce tissu, justement, il est tout doux. En coton bio, certifié GOTS, le tout est dessiné à Biarritz et fabriqué au Portugal. Tu pourras l'utiliser de la naissance jusqu'aux 10 kg de ton bébé, de quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on n'a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code MILCHECKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%.
Très handicapant. Donc on a quand même décidé, après l'observation de l'inflexion de la courbe, de couper ses freins. En parallèle, je suis aussi rapidement passée au complément, sans passer par la case tirage, parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, j'ai fait la conclusion définitive que je ne pourrais jamais allaiter exclusivement mes enfants, puisque là, j'avais quand même un enfant qui était très, 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 très bien, puisque un enfant de 2 ans. Malgré ça, il n'arrivait pas à stimuler suffisamment pour que bébé ait suffisamment de lait. Mais vraiment, je leur dis, c'est quelque chose que j'ai toujours bien vécu, parce que j'avais pas de problème à donner du lait artificiel tant que, voilà, je le répète, ça mettait pas en péril mon allaitement. D'ailleurs, quelque chose que je n'ai pas pensé à préciser, mais qui peut être vu comme symptomatique du manque de lait. Dans mon cas, je n'ai jamais eu de montée de lait douloureuse et j'ai jamais eu de fuite. Donc voilà, je pense que, je ne sais pas si ça s'observe à chaque fois, mais en tout cas, moi, c'est un retour d'expérience que je peux faire à l'issue de ces deux allaitements. Donc je suis aujourd'hui de nouveau enceinte. Mon petit avait presque 2 ans quand je suis tombée enceinte. Cette fois-ci, les tétées sont devenues assez rapidement douloureuses et bien plus que pendant ma précédente grossesse, ce qui m'a obligée à faire quelques ajustements. Et notamment en novembre, j'ai pris la décision d'un sevrage nocturne parce que clairement, autant jusque-là, les tétées nocturnes me posaient aucun problème, mais là, je dormais vraiment mal. Donc, on a fait un sevrage nocturne qui était plus précoce dans la grossesse que pour mon précédent, mais finalement un peu plus tard pour lui puisqu'il y avait plus d'écart entre numéros. Donc ce sevrage nocturne est intervenu cette fois-ci plutôt dans la grossesse, mais finalement plus tard pour bébé, puisqu'il y a plus d'écart entre numéro 2 et 3 qu'il y en avait entre numéro 1 et 2. Donc aujourd'hui, je suis à 7 mois de grossesse. Il tète toujours matin et soir. C'est franchement pas agréable pour moi, mais j'y tiens pour d'une part pouvoir avoir son aide à l'arrivée de bébé 3 pour la mise en place de la lactation et d'autre part pour lui laisser la chance de poursuivre son allaitement après la naissance s'il en a envie. Donc si je devais résumer mon parcours, donc mon grand aura tété pendant quasi 4 ans. Alors à la fin, c'était plus très nutritif, mais quand même important sur plein d'autres aspects pour lui, pour nous. Et mon second est toujours allaité à 2 ans et demi. Et même si c'est plutôt câlin pour le moment en raison de la baisse de lactation induite par la grossesse, ça redeviendra peut-être nutritif après la naissance. En tout cas, c'est lui qui décidera ce qu'il voudra à ce moment-là. Donc globalement, hors grossesse, malgré mon terrain peu favorable et mon manque de lait aujourd'hui, je pense, avéré, j'aurais réussi un allaitement d'un ratio 80-20, qui est pour moi une belle réussite. J'ai aucun regret d'avoir cédé, entre guillemets, aux compléments, car clairement, ils m'ont facilité la vie, et surtout, ils ont rendu mes allaitements sereins. Alors, au bout de quelques mois, pour mon grand, hein, ça n'a pas été tout de suite, et dès le début, finalement, pour mon petit, puisque dès qu'on a observé l'inflexion de la courbe, on a complémenté, et c'était pas un sujet. Aujourd'hui, je reste convaincue qu'il est préférable d'avoir un allaitement mixte que exclusif et courté. Alors, ce n'est que mon avis. En tout cas, moi, c'est ce qui m'amène de la satisfaction. Et de complémenter, ça n'enlève aucun des bienfaits de l'allaitement. Mais en tout cas, ça, moi, dans mon cas, ça m'a permis de les faire durer dans le temps, ce qui est pour moi l'objectif. Et pour le bébé qui arrive, je ferai exactement pareil. J'ai prévu de suivre son poids. En fait, j'ai une balance à la maison que j'avais achetée lors de mon premier allaitement. Je l'ai pas précisé, mais on avait investi dans cette balance pour pouvoir, d'une part, le peser régulièrement sans avoir à se déplacer à chaque fois, etc. Et surtout, avec notre consultante en lactation, on avait mis en place des pesées tétées. Ça, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi une chose de plus qu'on a fait, en tout cas pour observer la prise de lait de bébé et pouvoir justement arriver ou pas à la conclusion d'un manque de lait. Donc les pesées tétées, ça consiste à peser bébé avant et après la tétée pour savoir approximativement ce qu'il prend lors des tétées. D'ailleurs, pour mon second, on n'a pas réitéré ces pesées tétées ou très peu, mais on pesait les couches, ce qui est un très bon indicateur aussi. Donc voilà, donc avoir une balance à la maison, alors c'est pas la même balance qu'on utilisait dans ce cas-là, hein, c'est toujours intéressant pour pouvoir faire ces petites observations. Alors il faut pas que ça tombe dans l'obsession, il faut pas que ça soit anxiogène. Moi, de mon côté, ça me permettait surtout de me rassurer, de pouvoir agir en fonction, sachant que voilà, par rapport aux observations, j'avais la solution en face, puisque encore une fois, je le dis, donner des compléments, pour moi, c'était pas un souci. Et bébé, prenez bien le biberon, prenez bien les compléments. Donc là, pour le bébé à venir, mon idée, c'est de le peser régulièrement et au moindre doute, je n'hésiterai pas à le complémenter, sans jamais, encore une fois, diminuer les tétés. Pour moi, ça, c'est hyper important, puisque déjà, de base, je manque de lait. Donc si, en plus, je diminue les stimulations, bah, clairement, je vais pas du tout avoir assez de lait. Donc vraiment, je diminue pas les tétés, je complémenterai s'il le faut. Si on peut tenir comme mon précédent un mois sans complément, ben on le fera un mois sans complément. Si c'est plus, c'est plus. Si c'est moins, c'est moins. Voilà, maintenant il faut juste espérer que ça soit une fois encore un bébé qui prenne bien le biberon comme ses grands frères. Voilà pour mon témoignage. J'espère qu'il pourra aider d'autres mamans. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que au bout de 4 ans et demi d'allaitement, j'ai eu beaucoup plus de sérénité que d'anxiété par rapport à ce manque de lait, parce que j'ai trouvé les solutions. Et puis finalement, j'ajouterai juste une chose, c'est que ça enlève aussi beaucoup de désagréments d'avoir moins de lait. Comme je l'ai dit, j'ai pas eu mal pendant les montées de lait, j'ai pas eu de fuite. Voilà, il y a plein de choses que j'ai pas eu aussi. On a chacune nos désagréments. Et moi, j'en ai évité pas mal aussi par ce manque de lait. Et juste une dernière chose que je voudrais ajouter. On essaie beaucoup de déconstruire les discours autour du fait que toutes les femmes ne pourraient pas allaiter, que le lait peut ne pas être assez nourrissant, etc. C'est très bien, mais il ne faut pas exclure les cas où on ne peut réellement pas allaiter exclusivement son bébé et bien dire que ça peut être OK. À mes débuts, j'ai culpabilisé d'entendre ces discours. Et puis finalement, j'ai trouvé ma voie, j'ai construit mes propres convictions et ça m'a fait du bien. Et aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est que oui, on peut réellement manquer de lait, mais ça n'empêche pas l'allaitement quand on a envie. Voilà.
Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te le redis encore une fois, mais c'est si important. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite surtout pas à le partager, à mettre une note ou des étoiles sur les plateformes d'écoute pour m'aider à le faire connaître. Déjà, ça me booste et ça me motive à continuer de créer ces contenus. Et surtout, ça permet à de nouvelles personnes d'être informées correctement sur l'allaitement. Pour échanger ou me faire un retour sur ce que tu as entendu, rendez-vous sur Instagram @milkshakerpodcast et je te répondrai avec plaisir. Pour rechercher un épisode, cette fois, une thématique, c'est sur le site internet milkshaker.fr que ça se passe. Tu y trouveras tous les épisodes et un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet recherché. Pour me consulter, comme ostéopathe, ça se passe à Suresnes, dans le 92. La prise de rendez-vous, elle se fait sur Doctolib en tapant Charlotte Bergerot-Palisco. On se quitte, comme au premier jour, avec Emma et son titre Blinded, en collaboration avec Nemen. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, milkshakez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I've been living inside my mind 24/7.